Cette communication trouve sa place dans la journée d'études qui a été organisée par le CELAM le 29 octobre, une journée d'études sur les faits médiévales, Morgane, Mélusine et Viviane en particulier, et sur leur devenir après le Moyen-Âge. Pour ma part, je me suis concentrée sur, bien sûr, les œuvres de Pierre Bottero et les personnages de Viviane et Ewilan. Je m'appuierai donc sur deux trilogies qui sont publiées entre 2003 et 2005, La quête et les mondes d'Ewilan. C'est un ensemble de 6 romans qui racontent les aventures d'une héroïne qui se transfère accidentellement dans un autre monde dont le territoire principal est nommé Gwendalavir. Là-bas, elle apprend que ses parents biologiques sont retenus prisonniers et qu'elle est dotée de grands pouvoirs qui lui permettront de les délivrer. L'histoire de cette libération occupe la première trilogie, tandis que la seconde présente davantage le voyage de la jeune fille et de ses compagnons vers un nouveau continent. Dans ce nouveau monde, des prêtres invoquent une terrible créature. Il reviendra dès lors à Ewilan et à ses amis de mettre un terme aux folles ambitions des prêtres et d'éradiquer l'entité maléfique qu'ils essaient de convoquer, de faire venir dans le monde. Aujourd'hui, il n'est plus à prouver que de nombreuses œuvres de fantasy héritent de la littérature médiévale et s'inspirent bien souvent d'un imaginaire, bon, plus ou moins fantasmé, lié au Moyen-Âge. Les œuvres de Pierre Bottero s'inscrivent dans cette tradition, elles se déroulent dans un univers pré-technologique et les références à la littérature médiévale ponctuent également les romans. Sont par exemple mentionnés les noms de Lancelot, de Galahad, de Perceval, etc. Cet héritage médiéval contribue aussi à façonner les personnages féminins de l'œuvre, dont Ewilan et Viviane, dont le nom transparent remanié à la sauce fantasy avec un Y ne laisse aucun doute sur les sources d'inspiration de l'auteur. Ewilan est donc une adolescente, l'héroïne des romans, qui croise très brièvement la route de Viviane. Viviane, en fait, est un personnage très marginal qui ne va faire l'objet que de quelques pages, de quelques lignes même, mais dont la présence est tout à fait intéressante, bien sûr, pour notre étude. Alors, afin d'éviter toute confusion, je vais parler de la fée Viviane pour désigner la figure médiévale et de Viviane tout court pour la protagoniste de Pierre Bottero. Dans le cycle de l'écrivain, Ewilan et Viviane ne sont pas les seules à pouvoir prétendre au titre d'héritière des fées médiévales. Bon, c'est toutefois vers elles que j'ai choisi d'orienter mon analyse puisqu'elles présentent des traits relativement similaires dans leur traitement, notamment dans leur hybridité avec les princesses, c'est un point sur lequel je reviendrai, et elles entretiennent également toutes les deux des liens avec un troisième personnage, Merwin Rilavalon, ou plus simplement Merlan. Alors en raison des contraintes temporelles, je vais limiter uniquement donc mon étude à ces deux figures. Tantôt explicite, tantôt voilée, le legs médiéval est en tout cas constamment remanié par l'auteur. J'interrogerai donc la réappropriation botterienne de ces figures merveilleuses et me demanderai comment deux personnages de fantasy jeunesse sont réactualisés et attestent d'un syncrétisme inhérent au genre. Comment sont construites ces protagonistes hybrides, issus d'inspirations très diverses, mi-fée, mi-princesse, mi-humaine, mi-surnaturelle. Le premier tome de La Quête, précisément sous-titré « D'un monde à l'autre », débute sur le passage de l'héroïne. La jeune fille, alors nommée Camille, est sur le point d'être écrasée par un camion, mais lorsqu'elle ouvre les yeux, elle découvre avec surprise avoir changé d'espace, puisqu'elle se trouve désormais dans une forêt. Elle assiste à l'affrontement d'un chevalier et d'un monstre, ce qui lui prouve bien qu'elle n'est ni en France ni sur Terre, mais bien dans un autre monde. Elle assiste donc voilà à ce combat avant de regagner à nouveau la chaussée, à l'endroit même où le camion a failli lui être fatal. Par la suite, Camille est attaquée par des sortes d'araignées géantes alors qu'elle est en compagnie de son ami Salim. Les deux adolescents sont alors entraînés de justesse à nouveau dans cet autre monde que Camille a déjà visité en amont, et ils échappent momentanément, aux arachnides. Ce second déplacement, cette seconde trajectoire, marque véritablement le début de l'aventure, car cette fois, Camille et Salim demeureront dans l'autre monde de manière prolongée. C'est-à-dire que la première fois, quand Camille se transfère dans l'autre monde, quand elle est sur le point d'échapper, quand elle manque de se faire écraser par un camion, elle se transforme dans un autre monde, mais c'est un passage qui va durer quelques minutes. Elle a juste le temps d'assister à l'affrontement du monstre et du chevalier. Tandis que là, dans ce second déplacement, ils vont rester plusieurs jours, plusieurs semaines dans l'autre monde. Alors si les traversées de monde sont nombreuses en fantaisie, hein, qu'on pense aux héros et aux héroïnes de l'histoire sans fin, du monde de Narnia, d'Harry Potter, notons que le déplacement de Camille et Salim se démarque par sa résonance féerique. Alors, je vais m'expliquer. On apprend d'abord que Camille est originaire de l'autre monde. En se transférant au Gwendalavir, elle rentre donc chez elle et regagne sa place dans l'espace surnaturel. Bien que Salim soit l'ami de Camille, il est rapidement présenté comme son amoureux et les deux jeunes gens forment un couple, notamment à partir de la deuxième trilogie. C'est donc bien une figure d'amoureux, d'amant, que Camille entraîne dans son monde. Lorsqu'ils pénètrent pour la première fois ensemble en Gwendalavir, les deux adolescents atteignent une forêt où ils rencontrent, je cite, « une magnifique créature chevaline à la tête couronnée de bois impressionnants », dont la grandeur prodigieuse fait dire à Willan qu'il s'agit du roi des cerfs en personne. Rappelons que dans la littérature médiévale, les héros sont nombreux, comme Guijmar, comme Thiolé, comme Florian, à chasser un cerf avant de rencontrer une fée. Il ne s'agit pas ici d'un cerf blanc, une couleur caractéristique de la féerie, mais bien d'un cerf surnaturel en raison de sa taille donc démesurée. L'animal sert davantage à accueillir le couple qu'à le guider, et il apparaît tout à la fois à Ewilan et à Salim. Quoi qu'il en soit, il est un marqueur de merveilleux qui souligne la différence entre leur monde et l'autre monde. Dès les premières pages, l'auteur semble ainsi emprunter à la matière de Bretagne. Notons d'ores et déjà qu'en gagnant son monde surnaturel, Camille se féerise en quelque sorte. Elle acquiert un nouveau nom, elle qui s'appelait déjà Camille du Ciel, hein, c'est le nom de famille qu'elle hérite de ses tuteurs, le nom de sa famille adoptive. Du Ciel donc qui signale déjà son caractère surnaturel. Elle devient Ewilan, un nom qui sonne davantage fantasy et qui s'accorde avec son monde. Nous pourrions presque alors séparer Camille, l'humaine, d'Ewilan, la femme surnaturelle. Son physique semble également se métamorphoser dans l'autre monde et évoluer, notamment ses cheveux. Salim remarque d'abord qu'il les, donc je cite encore, croyait châtain, mais il dit finalement qu'ils étaient plus dorés que bruns, et par la suite, Ewilan est qualifiée de blonde aux cheveux longs. Les fées sont singularisées par leur blondeur, en ce sens, Ewilan évolue et prend peu à peu l'apparence d'une fée. C'est d'ailleurs bien en blonde qu'elle est représentée dans presque toutes les images, hein, qu'il s'agisse des couvertures, des romans, des BD, également dans l'adaptation d'Andarta. Les studios Andarta sont en train d'adapter les œuvres de Botero en série d'animation. Là encore, Ewilan est bien blonde. En Gwendalavir, elle apprend par ailleurs qu'elle est une dessinatrice et qu'elle possède un pouvoir, celui de rendre réel ce qu'elle imagine en esprit. Ce pouvoir créateur lui permet également de se déplacer, puisqu'elle peut effectuer des pas sur le côté, c'est-à-dire des déplacements d'un endroit à un autre, de sorte de téléportation, et elle est une des rares personnes à pouvoir accomplir ce qui est appelé le grand pas, c'est-à-dire à pouvoir se déplacer entre les mondes et non seulement au sein d'un même territoire. Elle est donc une figure des seuils, d'autant plus qu'elle arpente plusieurs dimensions. Lorsqu'elle dessine, Ewilan parcourt en esprit, on nous dit l'imagination, donc avec une majuscule, et les chemins de cette dimension qui sont nommés les spires. Précisons qu'à plusieurs reprises, les déplacements de l'héroïne, qu'il s'agisse de pas sur le côté ou de grands pas, la conduisent à proximité de lieux aquatiques. C'est également quelque chose qui se reflète, qui se traduit très bien dans l'adaptation BDIque. Hein, on a beaucoup de teintes bleutées, on la trouve aussi souvent représentée dans des lieux en rapport avec l'eau. Dans son ouvrage « Le monde des fées dans l'Occident médiéval », Laurence Arflankner nous rappelle que, je la cite, « le monde des fées est aussi un espace aquatique ». Et elle rappelle voilà, cette belle formule de Jean Frappier qui évoque, je cite encore, « les frontières humides de l'autre monde ». Ewilan longe et souvent traverse ces frontières humides. Par exemple, elle se matérialise par deux fois à côté d'une fontaine. Depuis Ondiane, voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu sur ce nom, mais voilà, depuis Ondiane, elle effectue un déplacement vers, ou plutôt dans un fleuve qui va lui servir de protection contre un adversaire qui fait écran, elle est donc bien protégée par l'eau, et toute son aventure est marquée par les espaces aquatiques. Elle suit un fleuve immense, elle se baigne dans des lacs, elle découvre également la capitale, qui est qualifiée de miracle de clarté, de couleurs et d'eau. Elle traverse plusieurs mers, elle rejoint également des îles, etc. L'héroïne va également se lier avec une créature marine qui s'élève au rang de divinité et elle va renaître dans les eaux d'un étrange lac qui la garde toute une nuit en son sein, qui la soigne alors qu'elle est mourante et qui lui confie une mission. Elle devient alors une sorte de dame du lac et Ewilan définitivement est une fille des eaux et l'image de la sirène affleure dans ce personnage. Comme les fées médiévales, Éowyn est une femme des frontières, une figure marginale, à la frontière entre la France et Gwendalavir, c'est-à-dire entre un monde primaire et un monde secondaire, entre l'espace terrestre et aquatique, et entre le monde matériel et immatériel de l'imagination. D'ailleurs, la BD atteste également très bien de ça, puisque les pages de garde des premiers tomes montrent une porte. Donc l'histoire est vraiment placée sous le signe du seuil, de la frontière. En chemin pour rejoindre la citadelle des frontaliers, et peu avant de rencontrer Merwyn Rilavalon en chair et en os, Éowyn découvre le tombeau de Viviane dans une forêt. Un lien intime se crée entre l'adolescente et la figure féerique, puisqu'Éowyn est la seule à apercevoir le tombeau. Elle est comme appelée par Viviane. On nous dit, je vous lis un extrait, « La pulsation qu'elle avait perçue la veille reprenait, plus intense, plus précise. Elle avait conscience qu'il ne s'agissait pas d'un véritable son et qu'elle était peut-être la seule à l'apercevoir. Elle en localisait à peu près l'origine et, presque malgré elle, écarta une branche basse. Elle s'aventura au cœur du bosquet, l'étrange pulsation s'était calquée sur le rythme de son cœur. Elle baignait dans une harmonie bienfaisante. » Les cœurs des deux femmes semblent battre à l'unisson et une étrange alchimie se développe entre elles et Éowyn étant, on nous dit, bouleversée par cette rencontre. Le tombeau de Viviane est fugitif, il apparaît pour s'offrir aux yeux d'Éowyn, puis disparaît comme s'il ne faisait pas pleinement partie de la réalité. C'est lorsqu'une de ses larmes, donc à Éowyn, coule sur le tombeau, on retrouve ici en condensé le topos de l'eau, qu'Éowyn apprend l'identité de la gisante. Le nom de Viviane s'élève lorsque sa larme atteint la surface du cercle. Elle va ensuite interroger un de ses compagnons au sujet de Viviane pour essayer d'avoir un peu plus d'informations et elle apprend que la jeune femme n'a jamais été humaine, mais qu'elle a été créée et qu'elle est un dessin. Donc une création magique. Afin de piéger le plus grand des dessinateurs, Merwyn Merlin, des créatures malfaisantes dessinèrent une femme. Le légendaire Merwyn, fou amoureux de cette femme, parvient à arracher leur création à ses adversaires et en quelque sorte à lui insuffler la vie. L'interlocuteur d'Éowyn précise cependant que, je cite, « son existence n'avait pas vraiment de réalité, elle était vouée à disparaître comme tous les dessins, et qu'un jour Viviane a cessé d'être, tout simplement. » L'épigone de la fée Viviane, remaniée par Botero, est une femme d'un autre monde, une figure surnaturelle et insaisissable. Le couple qu'elle forme avec Merwyn est présenté comme mythique pour les habitants de Gwendalavir, et de façon tout à fait explicite, Pierre Botero établit le parallèle dans le texte, puisque Camille se demande s'il était, je cite, « possible que Merwyn ait été le Merlin des légendes de l'autre monde ». Et le chapitre se conclut ainsi. « Elle ne regrettait pas d'avoir passé sous silence la légende de Merlin et Viviane, donc la fée Viviane, la réalité à la virienne, donc la réalité de Gwendalavir, était tellement plus belle. » En réécrivant le mythe de la fée Viviane et de Merlin, Pierre Botero propose finalement une version, peut-être pas tout à fait heureuse, mais au moins une version gorgée d'espoir. Si les deux amants sont séparés, ce n'est finalement pas tant par la mort que par la fatalité, et cette séparation ne semble que temporaire. Après avoir franchi une porte taillée dans le tronc d'un chêne, Éowyn et Salim atteignent l'île d'Avalon et trouvent Merwyn adossé à un pommier. Éowyn comprend qu'il se livre à un travail immense, démiurgique, pour ramener son amour perdu à la vie. « Vous dessinez un monde, n'est-ce pas ?» lui dit-elle. « Tout ce qui nous entoure est éternel, et c'est vous qui l'avez créé. Vous avez tout imaginé. » Les arbres, les fleurs, le ciel, l'eau, les animaux, les montagnes. Nous sommes dans votre dessein. Je sais que lorsque vous aurez achevé votre œuvre, il n'y aura d'autre solution que le retour de Viviane. Pierre Botero réutilise ainsi des éléments médiévaux. Par exemple, Avalon signifie la pommerée, hein, comme nous l'explique Philippe Walter dans son dictionnaire de mythologie arthurienne. On retrouve donc bien cet élément, hein, puisque Merwyn apparaît sous un pommier. Et Éowyn franchit également plusieurs frontières pour gagner Avalon, dont une frontière aquatique. Elle se rend aussi compte qu'elle a traversé le tronc d'un arbre pour trouver Merlin, ce qui fait écho à sa légende, puisque dans certaines versions, l'enchanteur se retire définitivement dans la forêt. Précisons aussi que Merwyn est doté de grands pouvoirs et qu'il pratique une sorte de magie comme son ancêtre. Chez Pierre Botero, Merlin est donc devenu tout à la fois le créateur et le gardien d'Avalon, qui autorise des héros d'exception, comme Éowyn, comme Salim, à pénétrer dans son monde surnaturel. La figure de Morgane, traditionnellement la dame de l'île d'Avalon, se superpose alors à celle de Merlin. Une inversion des sexes semble ainsi s'opérer. Merlin prend le rôle de Morgane comme gardien d'Avalon. Viviane incarne quant à elle en quelque sorte Merlin, puisqu'elle est condamnée à l'immobilisme. Elle finit donc en quelque sorte de la même façon que l'enchanteur. et Éowyn est presque un nouvel Arthur, elle est en tout cas l'héroïne qui est autorisée à se rendre en Avalon et qui bénéficie de l'aide de son gardien. Dans cette réécriture, remarquons que la fée Viviane est également réhabilitée. Si elle cause la perte de Merlin, qui va se retirer du monde, c'est bien malgré elle. Merlin n'est plus, quant à lui, l'enchanteur de certaines versions, insistant et désireux de s'emparer de la virginité de la fée. Il n'y a d'ailleurs plus de relation de maître à élève entre eux dans la quête. Chez Pierre Boutero, le côté, entre guillemets, sombre du mythe est évacué, ne reste alors plus qu'un amour absolu. La quête d'Éowyn est une trilogie de littérature jeunesse. Si le mythe n'est pas simplifié ou réduit, au contraire, il me semble que cette histoire de dessin de Viviane, qui est un dessin qui se greffe aux autres éléments, enrichit la légende. Bon, c'est toutefois un mythe qui est adouci. Ce que les jeunes lecteurs et lectrices peuvent retenir est avant tout le puissant sentiment qui unit Viviane et Merwin et l'espoir du dessinateur. Et Willan est convaincu qu'il réussira à ramener Viviane et que l'amour triomphera comme souvent en littérature de jeunesse. Si, comme nous l'avons noté, Viviane n'est aucunement l'élève de Merwin, Éowyn, en revanche, pourrait hériter de ce titre. « Tu es peut-être la meilleure dessinatrice qui ait vu le jour depuis Merwin », lui dit-on dans le deuxième tome. Elle possède le même pouvoir que le protagoniste, et Merwin s'érige brièvement en professeur. Le jeu d'énigmes et de devinettes auquel se livre l'héroïne pour le trouver et comprendre les raisons de son retrait en Avalon a tout d'un test et est didactique. Le dessinateur paraît ainsi évaluer les talents de déduction et l'intelligence de la jeune fille, et en récompense, il va la guider, lui apprendre où ses parents sont retenus prisonniers, ce qu'il faut qu'elle fasse pour les délivrer, etc. Éowyn peut ainsi être rapprochée de la fée Viviane, la proximité de leur nom permet tout d'abord de dresser ce parallèle, mais elle présente également une certaine connexion, comme nous avons pu le voir, et Éowyn est bien en quelque sorte, bon, sinon l'élève, du moins l'héritière de Merlin. Notons cependant que dans la littérature médiévale, l'apprenti de l'enchanteur est également parfois la fée Morgane, et précisément l'héroïne de Pierre Boutero paraît aussi se rattacher à cette figure par le schéma narratif dans lequel elle s'inscrit. Je reprends donc pour cette analyse les éléments qui ont été mis au jour par Laurence Arflankner dans Les Fées au Moyen-Âge, et où elle explique que les récits morganiens sont ceux qui présentent, je la cite, « un être surnaturel qui s'éprend d'un être humain et l'entraîne dans l'autre monde ». Le retour du mortel parmi les siens est lié au respect d'un interdit dont la transgression provoque la mort du héros ou sa disparition définitive dans l'autre monde, et elle nous dit « cette union demeure stérile ». Les récits morganiens forment ainsi le schéma narratif suivant. En premier lieu, on a un voyage dans l'autre monde avec des éléments récurrents, le héros s'éloigne et l'aventure merveilleuse, donc je cite Laurence Arflankner, se produit dans un lieu frontière. Un animal enchanté apparaît, le héros le poursuit, il rencontre la fée, il s'unit à elle. Deuxièmement, le héros séjourne dans l'autre monde. Il doit respecter un interdit, généralement. Il finit en troisième position par retourner dans le monde des humains, hein, il finit toujours par partir, et par transgresser l'interdit qui lui a été imposé. Alors, il meurt ou il disparaît à jamais dans l'au-delà. Revenons donc sur la relation d'Éowyn et de Salim. C'est une relation qui se construit autour d'un milieu aquatique, puisqu'un fleuve sépare leurs domaines respectifs, donc en France, hein, et se pose comme frontière entre le quartier chic de l'héroïne et la cité HLM de l'adolescent. La trajectoire de Salim connaît deux premières étapes. Tout d'abord, il longe le fleuve en compagnie de son amie pour la raccompagner chez elle, et il pénètre donc dans son domaine. Hein. Il franchit pour cela une double frontière, celle du fleuve et celle du, je cite, « au mur de pierre couronné de pics en métal acéré qui ceint la demeure des Duciels ». Ensuite, il est transporté aux côtés des Willan en Gwendalavir et outrepasse à nouveau une frontière, celle qui sépare les mondes. Comme nous l'avons vu, les premiers pas de Salim se font dans une forêt où un cerf prodigieux apparaît bon, un petit peu plus tard. La relation entre les deux jeunes gens évolue peu à peu en histoire d'amour au fil des tomes, et l'on apprend dans une autre trilogie de Pierre Boutero que le couple a donné naissance à une petite fille, qui est précisément qualifiée de fée par un personnage, bon ça ne s'invente pas. L'union de l'héroïne et de Salim n'est pas stérile, comme celle des récits morganiens, et nul pacte n'est imposé par Éowyn. Nous ne trouvons donc nulle transgression de Salim chez Boutero, tout se passe finalement comme si le couple suivait les premières étapes du schéma morganien, notamment le voyage vers l'autre monde, la rencontre, avant de tracer sa propre voie, une voie heureuse, sans interdit, sans trahison, et bien sûr sans séparation. Comme souvent en littérature de jeunesse, tout est bien qui finit bien pour les protagonistes, et le mortel reste ad vitam aeternam dans le domaine de la fée. Chez Botero, l'effet médiéval, Morgane et Viviane, se diluent dans les personnages féminins évoqués. Cependant, l'inspiration botérienne ne se tourne pas seulement vers l'imaginaire médiéval. L'œuvre de Pierre Botero est empreinte de syncrétisme et une troisième femme vient se frayer un passage au milieu des faits médiévals. Bon, il ne s'agit pas de Mélusine, hein, comme le titre de la journée d'études aurait pu l'indiquer, mais de la figure de la princesse qui surplombe véritablement Ewilan et Viviane. Viviane apparaît dans un seul tome, intitulé « L'île du destin ». Elle précède et annonce la rencontre d'Ewilan et Merwin. Et voici comment elle est décrite. Alors, elle est dans un tombeau. On nous dit donc « La femme qui est reposée était coupée du monde par un couvercle de cristal prodigieusement belle. La mort n'avait su gommer la douceur et la noblesse de ses traits, ni ternir l'éclat de sa peau. Une masse de cheveux dorés cascadait autour d'un visage au contour parfait et accompagnait les courbes d'un corps merveilleux. » Bon, vous l'aurez peut-être deviné, c'est la présence bien sûr du couvercle de cristal qui rappelle immédiatement à l'esprit la figure de Blanche-Neige. Les matériaux varient, mais se ressemblent étrangement. Bon, cristal chez Botero, verre chez les frères Grimm, mais il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une matière transparente, formant une sorte de vitrine pour admirer la gisante. Dans les deux cas, cette dernière reste d'ailleurs merveilleusement belle. Hein. Dans la traduction du conte par Marthe Robert, il est écrit « Blanche-Neige demeura longtemps dans le cercueil, et elle ne se décomposait pas, elle avait l'air de dormir, car elle restait toujours blanche comme neige, rouge comme sang et noire de cheveux comme bois d'ébène. » Le cercueil dévoile, expose, autant qu'il préserve. Viviane ne possède pas les caractéristiques typiques de Blanche-Neige, cheveux noirs, lèvres rouges, mais un physique qui correspond tout aussi bien aux fées médiévales qu'à la plupart des princesses. Elle est prodigieusement belle, nous dit Botero, comme quasiment tous ses personnages féminins, mais elle est surtout blonde. Dans l'adaptation en BD, Viviane apparaît comme une princesse, donc je vous invite à aller voir cela. Elle est solaire, blonde, à la peau pâle. Elle repose parmi les bijoux, les dorures et les fleurs. La richesse des ornements ne peut qu'attester de sa noblesse, de son côté, eh bien, princesse. La proximité des deux femmes dans cette illustration nous permet également de nous rendre compte de leur ressemblance physique, donc qui n'est pas mentionnée chez Botero, mais dans la BD, on a vraiment un air. Ewilan hérite de Viviane. Ici, l'illustratrice nous offre l'image rare d'une femme penchée sur le corps d'une autre, endormie, mais l'héroïne est bien incapable de réveiller son aïeul. Elle ne se risque d'ailleurs pas à essayer. Comme Blanche-Neige, Viviane est condamnée à l'immobilisme et attend d'être ramenée à la vie par un homme, Merwin, qui devient alors un prince charmant. De la littérature médiévale au conte des frères Grimm, de la pommerée d'Avalon à la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, il n'y a qu'un pas. La dessinatrice de la BD semble d'ailleurs l'avoir bien compris, hein, puisqu'elle présente Merwin en train de croquer dans une pomme, qui constitue une invention par rapport au texte d'origine, mais qui rend bien compte de la porosité des figures que nous évoquons. Dans une moindre mesure et d'une façon plus implicite, Ewilan témoigne aussi de cette double appartenance, féerique et princière. Bon, là, je pense plus spécifiquement à Blanche-Neige, mais aux princesses de manière générale. En France, Ewilan vit chez les Duciel, bon, pas tout à fait dans un palais, mais dans une riche demeure. On nous dit une des plus belles demeures au cœur d'un jardin ceint de hauts murs, qui se situe à proximité d'une tour romaine. Bon, la tour étant bien sûr un motif récurrent dans les contes de fées. Lorsqu'elle gagne Gwendalavir, Ewilan apprend que ses parents sont des sentinelles, ils occupent donc une des plus hautes fonctions de la société, une fonction réservée à une élite. La particule de son nom, la particule centrale, elle s'appelle Ewilan Gilles Sayan, atteste par ailleurs de la noblesse de sa famille biologique. Pierre Botero nous dit voilà, que quand on a des noms comme ça en trois morceaux, c'est qu'ils sont nobles. Donc on a Ewilan Gilles Sayan, on a ça avec Merwin aussi, qui s'appelle Merwin Riel Avalon, Edwin Till Ilan, etc. Les Gilles Sayan vivent dans la capitale, Alget, bon, qui est qualifiée de ville de contes de fées. Et leurs appartements occupent, je cite, « le sommet d'une tour de jade et de verre. On y accédait par une succession de passerelles arachnéennes qui dominaient une bonne partie de la capitale et débouchaient sur une plateforme pavée d'une mosaïque céruléenne. Le décor est magique et traduit leur statut, élevé. » Notons enfin qu'Ewilan, comme de nombreuses princesses de conte, est en conflit avec une marâtre, Eléa Rilmorienval, l'antagoniste. Dans la deuxième trilogie, nous apprenons que l'ennemi d'Ewilan a eu, par le passé, une liaison avec le père de l'héroïne. Ce dernier l'abandonne alors qu'elle est enceinte et Eléa perd son enfant, qui était une petite fille, lors de l'accouchement. Et Willan est donc d'une certaine manière l'enfant qu'elle n'a jamais eu. En affrontant Eléa, l'héroïne affronte un avatar de figure maternelle, à l'instar de Blanche-Neige ou de Cendrillon. Et si les aventures des Willan ne se terminent pas par un mariage célébré en grande pompe, notamment en raison de son âge, hein, elle a 13-14 ans, elle se conclut toutefois par un bonheur retrouvé et un cercle familial reconstitué. Le couple formé par Ewilan et Salim n'a pas beaucoup d'enfants, comme le veut la formule de clôture traditionnelle des contes, mais le mortel et son amante féerique vécurent heureux. En conclusion, les héritières des fées médiévales, que sont Ewilan et Viviane, gardent la trace de leurs ancêtres merveilleuses. Les siècles se sont écoulés depuis le Moyen-Âge et nos héroïnes contemporaines sont également inspirées de figures féminines postérieures, comme les princesses de contes, qui appartiennent à cette mémoire où vont puiser auteurs et autrices. Viviane et Willan sont hybrides, mi-humaines, mi-surnaturelles, et attestent d'un syncrétisme qui caractérise les romans de Pierre Bottero. L'auteur de La quête des mondes de Willan réécrit, remanie, reconstruit, pour offrir aux lecteurs et lectrices de nouvelles héroïnes, aujourd'hui traduites en images sur les planches de BD et bientôt sur les écrans télévisés. Et Willan et Viviane sont des personnages originaux, tout en étant également des réminiscences, des échos de femmes du passé. Dans Les Filles du Feu, Gérard de Nerval écrit cette phrase dans sa dédicace « Inventer, au fond, c'est se ressouvenir » et il me semble que cette phrase traduit tout à fait l'appropriation bottérienne. Il invente tout en se ressouvenant.